RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le week-end des experts, les animaux. Un excellent dimanche avec nous. Je vous rappelle qu'à partir de 8h, vous retrouverez Jean-Luc Moreau à mes côtés. Laetitia, dernière ligne droite de notre rendez-vous animaux. On a encore une heure à passer ensemble. Ça fait tout drôle parce que c'est vrai
dernière.
C'est
la dernière des dairs, comme on dit.
Il y a pas mal d'émotions dans ce studio, vous pouvez l'imaginer. Vous rendez compte que pendant 15 ans, je me suis réveillé avec Laetitia Barlerin tous les dimanches matins.
Et oui, et moi aussi.
Et vous aussi.
Avec vous.
Et voilà, donc et ça, forcément, ça crée des...
15 ans de bonheur.
Et
c'est vrai que, voilà, pour cette dernière émission, au lieu d'avoir des invités, on a préféré, voilà, passer des moments...
Se remémorer quelques moments sympathiques
de vos animaux.
Alors on a eu des auditeurs qu'on écoutera tout à l'heure, auditeurs qui nous ont franchement bien fait rigoler parce qu'on a eu beaucoup de fou rire dans ce rendez-vous.
Beaucoup de témoignages émouvants, hilarants aussi. C'est vrai.
Tout à l'heure, on vous diffusera un petit bout d'une interview exceptionnelle que nous avions réalisée de Brigitte Bardot. C'était en juin 2015. Luc Jacquet aussi avait été notre invité. Vous savez, le réalisateur oscarisé de La Marche de l'Empereur, il était venu, c'était le 12 février dernier. Ouais. Mais pour débuter, Laetitia, c'est vrai que souvent on évoquait le cinéma et les animaux parce que c'était vraiment une thématique qui tombait sous le sens. Il y a eu beaucoup de films qui ont été dédiés aux animaux.
Exactement.
En tout cas, qui mettaient en scène les animaux.
Voilà.
Et c'était le cas de Jean-Jacques Haneau aussi.
Et oui, Jean-Jacques Haneau, réalisateur oscarisé, césarisé. Alors oui, il a réalisé La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, L'Amant, 7 ans au Tibet, mais surtout, il est le réalisateur de L'Ours, de Deux Frères et du Dernier Loup qui est sorti en 2015 et il nous avait fait l'honneur quand même de venir nous voir et nous parler des loups,
voilà.
Bien sûr.
C'était donc le 1er mars 2016, Jean-Jacques Haneau, l'invité exceptionnel de ce rendez-vous animaux.
Pendant la pause, on parlait d'une louve jalouse. Et oui, les louves peuvent être jalouses. Et sur le tournage, il y avait une louve jalouse de Jean-Jacques Haneau.
Oui, parce que c'est vrai que des fois c'était un peu exagéré ces démonstrations amoureuses.
Parce que vous étiez très lié avec le loup dominant, enfin qui est le.
Oui, Claudie.
Il me débarbouillait. Alors vraiment, même à la fin, il a réinventé le French kiss, vous savez, c'est-à-dire pas le baiser hollywoodien. Oui.
Non, avec la langue.
mais c'est long une langue de loup. C'est très.
C'est ça.
Oui. Et alors,
je vous imaginais pas comme ça, Jean-Jacques.
Enfin, moi, je savais pas.
Oui.
Et mon dresseur m'expliquait que c'était un geste de très grande affection parce que c'était. Sa maman qui lui donne, c'est des souvenirs d'enfance où la maman donnait à manger en ouvrant le bec et en donnant la nourriture déjà mâchée. Mmh. Et donc, j'ai eu droit à cet immense privilège. Et du coup, effectivement, la louve qui s'appelait Silver, qui était une louve extrêmement intéressante et qui est restée fidèle à son mari, même quand il a été détrôné, car nous avons eu un changement de roi, eh bien, au bout de 5 minutes, elle venait me tirer le pantalon, elle venait même se mettait derrière moi, elle m'arrachait les cheveux pour me dire que pour nous signifier à tous les deux qu'il était temps de passer à autre chose et de commencer le travail.
Alors il y a une scène magnifique pendant le film, vraiment est incroyable. Elle dure quelques minutes. C'est la scène où une meute de loups chasse un troupeau de chevaux vers un lac gelé.
Alors tout la nuit dans le blizzard.
Le tout la nuit dans le blizzard.
Facile à filmer ça.
Avec des cavaliers qui suivent. Alors franchement quand j'ai vu le film, je dis mais cette scène est complètement folle, mais il est fou. Comment il a fait ?
Alors, il est fou, ça c'est ce que je me suis dit pendant des mois avant de faire la scène. Je me réveillais en sueur en me disant je suis fou. Et donc, je réfléchissais 20 secondes et je me disais mais le cinéma doit être fou, donc c'est bon et je me rendors. Écoutez, grosso modo, pour faire 6 mois de préparation, 6 semaines de tournage, 6 minutes d'écran, avec chaque plan évidemment dessiné auparavant, étudié avec le dresseur. Problème numéro 1, la sécurité des animaux. Vous imaginez bien que faire cavaler des loups dans la nuit à côté de chevaux, alors que les deux espèces n'ont donc une envie de s'exterminer, il a fallu prendre des précautions énormes. Et la rouerie a été de mettre les animaux ensemble et protégés par une barrière.
Qu'on ne voit pas.
Oui, des couloirs délimités, c'est ça ?
Ouais.
D'accord.
C'était des couloirs, comme des couloirs de course à pied, si vous voulez, mais matérialisés, et avec quand même toujours des cavaliers encadrant les chevaux et les dresseurs eux aussi à cheval, précédant et suivant les loups, pour intervenir en cas d'incident. Heureusement, ces incidents ne se sont pas passés, mais c'est pour ça que j'ai tourné cette scène très en amont. Je l'ai tournée en 2012, de façon à avoir toute l'année 2013 pour éliminer soit les barrières, soit les dresseurs qui ne devaient pas être visibles dans l'image. D'ailleurs, ils étaient eux tous habillés en schtroumpf, en bleu, vous savez, de façon à ce qu'on puisse les faire disparaître dans post-production. Mais ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez compliqué.
Ah ouais,
et alors, bien entendu, nous avons utilisé aussi des ce qu'on appelle les dummies ou des animatroniques, c'est-à-dire des animaux faux. Des peluches sophistiquées. Nous en avions 50 selon les plans. Nous les avons fait avec des expressions différentes, évidemment.
Donc, c'est vraiment réaliste, ce genre de choses.
Oui, mais surtout, on utilise ça dans le film. 98% c'est du
vrai.
C'est du 100%. C'est du 98% loup. 1%
numérique.
Non, même pas 1% même numérique. Pas. On a, je crois, 28 plans en numérique que nous avons enregistrés d'ailleurs nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la motion capture. C'est-à-dire qu'après, on chorégraphie ces animaux que l'on a filmés sur fond bleu, on les chorégraphie ensemble. Il y a un plan où on voit les sabots des chevaux se resserrer contre un loup, bien entendu qu'on n'allait pas mettre un loup en danger pour faire cette scène.
D'accord.
Alors là, c'est la vétérinaire qui vous parle. Vous m'assurez qu'il n'y a pas eu de maltraitance sur les animaux, pas de blessés, pas de morts.
Nous avions une confrère à vous, à demeure, elle s'appelle Rain, elle était incroyablement compétente. C'est une jeune femme de Nouvelle-Zélande, née en Chine, mais elle a, par exemple, nous a sauvé notre loup principal, mon copain Claudie, qui a eu un phénomène que vous connaissez sans doute très bien en tant que vétérinaire. Il ne s'est plus alimenté à un moment et elle a compris qu'il avait eu l'estomac qui s'était vrillé.
Oh là là, ah oui,
c'est le loup, je ne savais pas.
Et on l'a opéré car nous avions un banc opératoire.
Ah mais c'est l'urgence.
C'est l'urgence absolue. Ouais. Et comme nous étions à 4 heures de route de la première ville, nous avions donc un bloc opératoire. Eh bien, elle l'a sauvé. Et il a fait tout le film après cette opération.
Incroyable. Bravo, parce que pour sauver un animal qui fait dilatation, torsion d'estomac,
c'est quelque chose de très 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 urgent. Moi, j'avais une petite question concernant les drones, parce que visiblement, il y a certains plans qui ont été faits avec des drones.
Oui.
C'est un outil qui est intéressant pour un réalisateur, ça, aujourd'hui.
C'est un outil formidable. Autrefois, il fallait travailler en hélicoptère parce que les caméras étaient très lourdes. Là, aujourd'hui, vous avez des caméras numériques extrêmement légères et extrêmement pointues, extrêmement performantes, qui vous permettent d'utiliser un objet qui fait 2 mètres de long et qui a le mérite de ne pas faire de bruit.
Et qui a le mérite de ne pas...
Ah oui, attendez, moi je mets un hélicoptère au-dessus des chevaux.
Là, c'est fini.
Il s'enfuit. En plus de ça, là-bas, la neige est très froide, donc très fine, et elle se serait soufflée. Donc là, j'ai utilisé des drones, parce que le premier s'est planté dans la tempête.
Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre,
pulvérisé.
Pulvérisé. Mais heureusement, les images qu'il avait filmées étaient toujours bonnes, en fait, c'est ça?
Oui, oui. Mais c'était très très incroyable parce que les propriétaires de zone, j'étais complètement catastrophé pour eux. En fait, non, ils ont pris ça très très bien. Ils sont arrivés triomphants en me disant la carte mémoire n'a rien, regarde, c'est impeccable. Et puis on peut recommencer demain, on a un deuxième dans le camion.
C'est ce que j'ai fait. Le drone de secours.
Voilà.
C'est génial.
Ce sont devenus les loups,
alors,
25 loups.
Ils vous saluent. Ils sont actuellement au nord de Calgary. On leur a construit un parc voisin de l'habitation de notre dresseur, d'Andrew Simpson. Et ils ont une vue que j'envie sur les Rocheuses.
Bon, Laetitia, on revient dans un instant. Et après, Jean-Jacques Haneau, autre invité exceptionnel qu'on avait eu dans cette émission, c'était Luc Jacquet. Là encore, réalisateur oscarisé. Effectivement, vous vous souvenez sans aucun doute de La Marche de l'Empereur. On va vous diffuser un extrait de son interview de Luc Jacquet dans un instant. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Laetitia, on est ensemble jusqu'à 8h pour la dernière de ce rendez-vous dédié aux animaux. Et on en profite pour revenir sur quelques-uns des moments qui nous ont marqués. On a eu, c'est vrai, énormément d'auditeurs qui nous ont touchés, beaucoup de fous rires aussi, beaucoup d'émotions et des invités aussi exceptionnels. Il y a un instant, on vous a rediffusé un petit bout d'une interview de Jean-Jacques Haneau. Autre invité, on va dire, régulier, fidèle de l'émission, c'était Luc Jacquet.
Et Luc Jacquet, quand même le réalisateur oscarisé pour La Marche de l'Empereur. Il faut savoir que quand La Marche de l'Empereur est sortie, c'était en janvier 2005, Luc Jacquet n'était pas du tout connu. C'était un film documentaire. Et franchement, l'attaché de presse avait beaucoup de mal à le vendre. Ouais. Et il est passé dans très peu d'émissions parce que...
Oui, parce que tout le monde l'ignorait, en fait.
Marche de l'Empereur, tout le monde l'ignorait. Et il est passé dans notre émission. Et je me rappellerai toujours parce que Luc Jacquet, qui n'était pas du tout connu, était très content de passer dans notre émission, de parler de sa passion, de parler des manchots empereurs qui vraiment, il parlait de ce film, son bébé.
Mais c'était sa passion,
bien sûr. Voilà. Et il a accepté, bien sûr, d'être dans notre émission. Et vraiment, par amitié, il a accepté, à chaque année, à chaque fois qu'il sortait un film ou que le DVD sortait, d'intervenir dans notre émission.
Et il était venu en février dernier nous parler de la suite de La Marche de l'Empereur.
Et qui s'appelle L'Empereur, tout simplement, qui était sorti dans les salles en février dernier.
Et on l'écoute. Laetitia, notre invitée, et Luc Jacquet. On va parler avec lui de son dernier film, L'Empereur. Mais avant de retrouver Luc Jacquet au téléphone, voici un extrait de la bande-annonce de ce film.
C'est l'histoire d'une vie d'autant plus extraordinaire qu'elle s'est déroulée dans un pays si hostile qu'aucun d'entre nous ne pourrait y survivre plus de quelques heures. L'empereur est né il y a 40 ans, dans un endroit qui s'appelle l'Oamok, une petite baie nichée entre quatre îles perdues au bord de l'Antarctique. En douceur, mais avec un peu de persuasion, l'empereur avait réussi à convaincre son petit de rester seul. Mais ce n'était pas facile à admettre pour ce poussin qui ne comprenait pas ce brutal changement d'habitude.
Avec la voix, évidemment, de Lambert Wilson, Laetitia.
Oui, on l'a reconnu et nous sommes avec Luc Jacquet, bien sûr, le réalisateur de L'Empereur. Luc, bonjour.
Bonjour Luc.
Bonjour, merci d'être à nouveau avec nous parce qu'on vous a reçu régulièrement pour vos films où, bien sûr, il y a des animaux. Alors, il y a 12 ans, vous avez reçu justement, presque jour pour jour d'ailleurs, pour la sortie de La Marche de l'Empereur qui vous a valu quand même différentes récompenses, dont un Oscar à Hollywood. Aujourd'hui sort L'Empereur, qui est une nouvelle fois consacré au manchot empereur. Alors pourquoi un nouveau film sur cet oiseau qui vit en Antarctique, il faut le préciser?
C'est vrai que ça faisait longtemps que j'essayais de passer cette frustration, de dire qu'on n'avait pas du tout été dans le milieu océanique, qui est finalement plus de la moitié de la vie de l'empereur. On n'avait pas les moyens à l'époque humains de descendre aussi profond. Et puis, c'est vrai qu'on était parti avec des caméras Super 16, on était parti avec des moyens un peu frustres.
Mmh.
À l'époque. Et du coup, voilà, on est parti là avec une équipe de 11 personnes, 5 plongeurs. On est allé là où personne n'était encore allé en Antarctique pour aller justement découvrir ce monde carrément étonnant qui est le monde sous-marin antarctique. On est descendu à 70 mètres sous la surface avec eux, c'est une première mondiale. Et c'est vrai qu'on a vu, des paysages sous-marins absolument somptueux, extrêmement colorés, extrêmement riches, et surtout l'empereur dans son royaume, si j'ose dire, où vous allez voir un animal qui, au lieu d'être une créature pesante, comme ça, devient une espèce de concentré de technologie naturelle qui est assez somptueuse.
Et ça vous a donné envie de refaire un film sur cet oiseau formidable?
Oui, et puis j'avais aussi, moi, envie de me reconfronter à ce sujet avec l'expérience que j'avais, c'est-à-dire vraiment arriver avec ce pari un peu fou qui était de, est-ce que je peux arriver à raconter le destin d'un individu et le filmer comme un acteur, avec la grammaire du cinéma, avec le champ contre champ, avec le par-dessus l'épaule, avec tous ces codes finalement de langage du cinéma, pour qu'on arrive à suivre l'histoire d'un individu. Moi, j'ai rencontré des individus que j'avais déjà rencontrés en 1991 là-bas. Et c'est vrai que c'est assez phénoménal de se dire que les animaux puissent vivre plus de 40 ans.
Ah oui.
Et j'ai voulu me poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un individu va tenir le coup et va pouvoir éventuellement transmettre cette histoire à son poussin.
On les reconnaît facilement, ces animaux. C'est-à-dire que vous avez pu retrouver des individuis que vous avez vus donc en 91.
Ils se ressemblent tous quand même.
Ils se ressemblent tous à l'œil. Ils sont absolument impossibles à reconnaître d'une certaine manière. C'est les biologistes qui leur mettent des petites bagues sous-cutanées qui nous disent,
ah, d'accord.
Il est né tel jour. On connaît très précisément leurs allers-retours, leur cycle de vie, leur succès reproducteur tous les ans.
Mais qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez cet oiseau, la première fois que vous l'avez approché? Est-ce que c'est ce côté humain? Parce qu'il a un côté humain, cet oiseau.
Dans sa démarche, assurément. Dans son obstination à vivre là où plus personne ne vit, dans sa façon de partager les soins parentaux, dans sa tendresse, je ne veux pas appeler ça autrement, dans cette capacité que les couples vont passer énormément de temps à se rassurer, à danser ensemble, à se synchroniser pour être sur un même pied. C'est vrai que c'est une espèce qui, pour beaucoup de ces comportements clés, finalement, évoquent effectivement des choses qui nous parlent à nous en tant que langage, finalement.
Bah c'est vrai qu'il reste stoïque face aux épreuves. Et on a des épreuves hein, sur la banquise. Et c'est incroyable, parce qu'on a beaucoup de respect pour cet oiseau quand on le regarde.
Ouais, je pense que le mot respect est vraiment le mot qui s'adapte. Vous savez, rien que sur la dimension de la plongée. Les plongeurs partaient, ils avaient 90 kilos de matériel sur le dos. Il leur fallait 15 heures par jour pour arriver à faire une plongée. Et à côté de ça, on avait les empereurs qui se jetaient à l'eau, tout simplement, qui ressortaient, qui repartaient. Ils ont une espèce d'amplitude comme ça, complètement folle, entre les abysses où ils sont capables d'aller jusqu'à 600 mètres de profondeur, 20 minutes d'apnée, jusqu'à ces marathons incroyables qu'ils sont capables de faire sur la banquise au milieu du Pisa. Non, c'est vrai que le mot respect là, est quelque chose qui s'impose si on compare l'espèce à nos fragilités, à nous d'êtres humains qui ne sommes pas du tout adaptés pour ces climats-là.
Alors comment se passe justement un tournage avec les manchots? Il paraît qu'ils sont faciles à approcher, qu'ils n'ont pas peur
ah
de
bon
l'homme.
C'est vrai, ils sont d'accord.
Ah, vous êtes bien renseigné, effectivement.
Vous inquiétez pas, Luc. Je connais bien les manchots. J'en ai jamais vu, hein. Mais...
Non, ils n'ont pas peur de l'homme. Ça, c'est ce qui fait partie de leur charme incroyable.
C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher d'eux et comment ils font? Ils vous regardent, ils vous ignorent.
Non, ils sont curieux. Alors, il y a toujours cette distance de sécurité à respecter pour pas les perturber. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que vous apprenez à lire très très vite dans leur façon d'être, dans leur langage. Il vous faut comprendre
parce qu'ils sont pacifiques.
Ils sont extrêmement pacifiques. Mmh. En revanche, si vous vous asseyez sur la banquise ou vous couchez, ils vont avoir tendance à venir vous voir, à tirer votre veste avec le bec. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et après, ils vont repartir, ils vont pas faire plus de craint que ça, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie curiosité partagée. Et voilà, moi, c'est quelque chose dont je me lasse jamais, parce que vous pouvez vous asseoir à côté d'eux et les observer comme ça pendant aussi longtemps que vous pouvez tenir malgré le froid.
Oui.
Et les voir vivre, c'est absolument incroyable.
Luc, merci pour ces quelques minutes passées ensemble. On revient dans un instant, Laetitia, bientôt 7h30. On va attaquer notre dernière demi-heure avec encore quelques-uns des bons moments qu'on a pu passer ensemble. Je me souviens notamment, Laetitia, d'un quiz de la vie privée des animaux. C'est pas que j'ai été ridicule, c'était pire que ça.
C'était
il y a pas si longtemps, hein, d'ailleurs.
Et oui.
J'ai tenu des années.
C'est un grand moment pour moi.
Voilà, j'ai fauté il y a quelques temps. Donc je vous conseille de rester avec nous. Le ridicule ne tue pas, heureusement d'ailleurs. On revient après la météo, les infos et puis autre invité exceptionnel qu'on avait eu dans ce rendez-vous animaux, c'était il y a 2 ans. C'était Brigitte Bardot. On vous rediffusera quelques extraits de son interview. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Un excellent dimanche avec RMC. En ce 20 août, Laetitia Barlerin m'accompagne. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est un moment un peu particulier pour nous, puisque c'est la dernière de ce rendez-vous animaux avec Laetitia, notre vétérinaire.
Après 15 ans
après
de
15
bons
ans.
Et loyaux services.
15 ans et demi, si
et
je puis me permettre, Laetitia. C'est important, le demi.
Voilà. Tous les dimanches matin, en compagnie de François Sorel.
C'est ça.
Voilà.
Et on remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis durant toutes ces années. Laetitia, alors pour cette dernière... Franchement, positive attitude. Hein,
oui.
Voilà. Alors, il y a de l'émotion, c'est clair, mais on garde le sourire. Et on va réécouter quelques-uns des grands moments de ces... Alors, j'allais dire 15 dernières années, c'est compliqué, parce qu'il y a eu, vous vous rendrez compte, des centaines, des milliers d'heures d'émissions.
C'est
compliqué. Donc, on reprend quelques moments emblématiques. Tout à l'heure, le quiz de la vie privée des animaux. On retrouvera aussi quelques
témoignages d'auditeurs. Voilà. Bien sûr.
Mais pour débuter, invité exceptionnel. Vous savez que la personne que vous allez écouter maintenant accepte très très peu d'interviews, Laetitia.
Ah, mais
et cette comédienne
peu.
Mythique,
oui.
J'allais dire presque, enfin plus que mythique, voilà, légendaire, vous adore, il faut le savoir. C'est Brigitte Bardot.
Voilà.
Et un jour, vous l'avez appelée, vous lui avez dit, voilà Brigitte, on aimerait bien vous interviewer sur RMC. Elle vous a dit oui.
Oui, et son attaché de presse était vraiment scié parce qu'il m'a dit, c'est jamais elle n'a accepté une interview d'une heure sur une radio. Jamais elle n'a accepté. Et j'ai découvert qu'elle écoutait notre émission.
C'est vrai, c'est vrai. Alors peut-être qu'elle nous écoute, Brigitte,
Elle écoute en podcast, comme on dit. Et elle connaissait l'émission, ce qui m'a étonnée. Et elle a accepté, c'était il y a 2 ans, en 2015, de répondre à nos questions. Elle allait fêter les 30 ans d'existence de sa fondation. Et elle nous a parlé de ses actions, de son combat pour les animaux. Et voilà, quelques minutes pour se rappeler de ce grand moment de radio, en tout cas pour moi.
Voilà Brigitte Bardot qui était l'invitée de Vos Animaux sur RMC, c'était en 2015. Brigitte, quand on vous entend, alors évidemment, ce discours, on le connaît de votre part. Hein, souvent, vous criez justement votre désespoir concernant ce sujet-là. Mais depuis quand êtes-vous amoureuse, autant amoureuse des animaux? Depuis toujours?
Oui. Oui, je suis née avec.
Vous êtes née avec des animaux autour de vous?
Je suis née sans animaux et j'ai passé mon enfance sans animaux parce que c'était en pleine période de guerre et que là, c'était impossible d'avoir un animal entre les bombardements et les privations de nourriture. Mais je suis née avec l'amour des animaux. J'ai toujours eu en moi cette passion des animaux, sur des images, sur des livres d'images, sur des... Quand j'allais voir, quand mes parents m'emmenaient voir des dessins animés de Walt Disney, tout ça. Et j'étais complètement subjuguée par l'amour que je portais à tous ces animaux. Dès que j'ai pu avoir des animaux, dès que j'ai pu être seule, indépendante, sans habiter chez mes parents, j'ai pris tout de suite un chien.
Et aujourd'hui, vous en avez combien?
Maintenant, je ne sais plus. Quand on aime, on ne compte pas, j'en ai au moins 12.
Attendez. Vous avez quoi, 12 chiens ou 12 animaux?
J'ai une centaine d'animaux chez moi.
Waouh! Quand même?
Une centaine? Mais alors attendez.
Oui,
non, mais vous avez quoi? Des chats, des chiens, des tortues, des oiseaux? Qu'est-ce que vous avez?
Des chats, une dizaine de chiens. J'ai. Des chevaux, un âne, des chèvres, des moutons, des cochons, des poules, des oies, des canards.
Vous avez l'arche de Noé. C'est l'arche de Noé.
Mais comment faites-vous? Vous vous en occupez personnellement de ces animaux, Brigitte?
Alors maintenant, je suis un peu handicapée, vous le savez. Bon, oui. J'ai du mal à marcher.
Vous avez mal aux jambes.
Alors j'ai chez moi des gens qui m'aident à m'occuper des animaux. Mais je continue à m'occuper des animaux. Je ne peux pas porter un seau, par exemple.
Oui.
Je peux leur donner le seau sous le nez.
D'accord. Mais que vous apportent les animaux, en fait?
Oh, écoutez, ça m'apporte un bien-être que vous n'imaginez pas. Là, je vis dans ma petite ferme actuellement. Je ne suis pas à la Madrague. Je suis là où j'ai tous mes animaux. Et si vous saviez comme le calme est beau, comme la nature est apaisante, et comme la vue de tous ces petits animaux qui sont sauvés, tous des abattoirs, ils ont tous été condamnés à mort, et je les ai sauvés vraiment de justesse. Et quand je les vois heureux, reconnaissants, gentils, ça m'appelle, ça me fait du bien, ça me donne du courage, et ça me transcende.
Alors vous savez, Brigitte, il y a certaines personnes qui ont ce que j'appelle moi un don pour communiquer avec les animaux, pour avoir leur confiance immédiate. Est-ce que vous avez ce don?
Ah, évidemment. Ah, évidemment, bien sûr que je l'ai. J'ai ce don, et les animaux ont le don aussi de me faire confiance. Je sais pas, c'est un échange de confiance, de d'amour, de je sais pas quoi, d'ondes qui se correspondent. C'est très extraordinaire le rapport que j'ai avec les animaux.
D'accord.
Et vous n'avez pas de phobie animale?
Les phobies, c'est quand on n'aime pas.
Oui, si par exemple, je sais pas moi, Laetitia n'aime pas les araignées, par exemple.
Ah,
les araignées, je leur fais pas de mal. Je vous jure, jamais je ne détruirai une toile d'araignée.
D'accord.
Alors chez moi, de temps en temps, c'est pas très propre.
Mais vous savez, quand on dit...
Il y a les serpents, j'aime pas trop.
Oui, c'est vrai que c'est pas terrible, le serpent.
Les serpents, je leur ferai pas de mal, mais ils me font un peu peur.
Voilà, c'était il y a 2 ans, Brigitte Bardot, l'invitée exceptionnelle de ce rendez-vous animaux sur RMC. Bon, Laetitia.
Et on l'embrasse bien fort,
voilà,
bien sûr.
On embrasse très fort Brigitte Bardot, qui doit être dans son sud, du côté de Saint-Tropez. Laetitia, on va maintenant... Alors, vous savez que, bon, évidemment, on forme un duo avec Laetitia, on se taquine beaucoup, on a eu d'énormes fous rires, etc.
Et puis,
Laetitia, prenait chaque dimanche matin quand même un malin plaisir à me torturer l'esprit avec son quiz de la vie privée des animaux. Alors,
oui.
Parfois, vous m'aidiez, chers auditeurs, parce
oui,
que
je
vous
sollicite, voilà.
Voilà, je vous sollicitais, etc.
Vous étiez vraiment très, très fort. Beaucoup plus fort que François Sorel.
Oui, ça,
et
c'est sûr.
Heureusement
ça, c'est
que François Sorel avait votre aide pour répondre à mes questions sur la vie privée des animaux.
Parfois, c'était un peu plus compliqué que ça.
J'étais mal inspiré. Voilà, si je vous dis empreinte anale.
Alors Laetitia, vous savez quoi? Je ne préfère même pas reparler de ce truc-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter ce quiz de la vie privée des animaux mémorable. Franchement, maman, si tu m'écoutes...
Éteins la radio.
Excuse-moi. Je pense que ça risque de dégénérer un petit peu. Voilà, je mets donc, vous savez, comme à la télé avant, ils mettaient un petit carré. Vous savez, quand on était petit, il y avait un petit carré blanc.
C'est vrai.
Hein? Donc là, je mets ça. Ça va? Non, on peut y aller?
Non.
Bon, ça va.
Oh,
alors, Laetitia.
C'est la nature.
C'est la nature.
Voilà.
Alors, on y va.
Qu'est-ce qui, chez le chien, correspond à l'empreinte digitale humaine et donc qui est unique pour chaque individu? Est-ce que c'est l'empreinte nasale, c'est-à-dire l'empreinte de la truffe?
C'est-à-dire que, mettez votre truffe là, s'il vous plaît. Et là,
pof,
il met la
voilà.
truffe, on sait qui c'est.
Voilà. Est-ce que c'est l'empreinte podale, c'est-à-dire de la patte, mais de la patte avant?
Oui, mettez votre patte là. Bon, ok.
Ou est-ce que c'est l'empreinte anale, c'est-à-dire l'empreinte de l'anus?
Voilà, asseyez-vous là, comme ça.
Là.
Parce qu'on, si ça soit,
bah oui, bah...
Hein?
Et ça veut dire qu'on peut le mettre, une de ses empreintes, sur son carnet, sur sa carte d'identité.
Ah oui. Si c'est la dernière solution, il faut qu'il soit propre, parce qu'autrement, il y en a partout après. Non, mais je vous l'avais dit, de toute façon, que ça allait être un carnage, hein, cette histoire-là. Là, on n'y peut rien, c'est le carnage annoncé. Laetitia, vous m'embêtez avec votre quiz, là, parce que franchement, j'en ai aucune idée. La truffe... Alors, comment on fait avec un bulldog, il a la truffe tout écrasée, le pauvre, et il a pas la même truffe qu'avec que par exemple un berger allemand. Non, mais c'est vrai. Donc j'élimine la truffe. La patte, il peut se l'abîmer, et puis c'est des coussinets. Donc, si c'est des coussinets, moi je vois pas, ça, ils doivent tous se ressembler, plus ou moins les coussinets. C'est pour ça que malheureusement, les amis, je le dis bien malheureusement, je pense qu'il s'agit de l'anus, quoi.
L'empreinte anale
qui est unique chez le chien. Mais si c'est pas ça, je vais être mais ridicule, quoi.
C'est votre dernier mot?
Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah, ça vous fait rigoler, hein.
J'ai le droit de me moquer.
C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, c'est facile de rigoler.
Alors, j'avais tout imaginé sauf ça, quand même.
Alors, c'est pas ça.
L'empreinte anale.
Je pense que cette chronique restera justement dans... Hein, Laetitia?
Je pense, oui.
Elle restera dans les annales. Alors, on enchaîne. Il reste la truffe et la patte. Regardez-la, elle est morte de rire. Je sais pas trop, je vais dire la patte, allez.
Allez, la patte avant. C'est pas ça non
c'est
plus.
C'est pas ça, allez. Oh là.
Bon, allez, il reste quoi?
Il reste la truffe. Non, mais attendez, là, vous me scotchez, la tia. Bon, Laetitia, voilà,
mais ça restera, mais c'est une bonne idée.
Oui.
Je pense que
oui.
Je vais mettre des chercheurs sur l'empreinte anale.
C'est ça.
Je pense qu'elle peut être unique, l'empreinte anale.
Je sais pas, d'un
chien.
Coup, moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une espèce de trou noir. Enfin bon.
Ouais, mais j'imagine la recherche sur l'empreinte anale.
Allez, hein? On revient dans un instant, Laetitia. On va arrêter là. Pour tous ceux qui se réveillent, malheureusement. Merci d'être avec nous. On va terminer ce rendez-vous animaux, Laetitia, avec quelques auditeurs. Là encore, des rendez-vous exceptionnels qu'on a pu passer grâce à vous dans ce rendez-vous animaux. À tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà Laetitia, on a encore quelques minutes à passer ensemble dans ce rendez-vous animaux. Écoutez, j'en profite pour vous remercier Laetitia, sincèrement, chaleureusement.
Merci à vous.
Durant toutes ces années, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses, tout comme tous ces auditeurs qui sont passés à l'antenne. On en a eu des centaines, voire des milliers. Alors on est évidemment plein d'émotions, toutes et tous, forcément. C'est toujours compliqué de terminer une émission de radio. Et on va terminer, vous savez quoi, avec les auditeurs, parce que franchement, si on doit dédier ce rendez-vous animaux, c'est bien à vous qui nous avez posé toutes ces questions.
C'est eux qui ont fait l'émission pendant toutes ces années, avec leurs questions, bien sûr, avec leurs anecdotes aussi, avec leur amour des animaux.
Oui.
Et on a là, des questions très amusantes, oui, c'est vrai, des fois... Mais je me rappelle d'une question, c'était le jour d'un changement d'heure. Alors, on n'était pas très bien réveillés.
Non, c'est vrai. Parce que vous savez, le changement d'heure, voilà, le dimanche matin, surtout quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, on dort une heure de moins.
Voilà.
Ce qui fait que, déjà, en se levant très tôt, ça nous fait dormir une heure de moins.
Voilà.
Et parfois, le démarrage, c'est un peu comme un vieux diesel, si vous voulez. Il faut que ça mette du temps pour s'installer.
C'est vrai. Et là, on a eu Annie.
Qui n'était pas bien réveillée non plus, j'ai l'impression.
Enfin, en tout cas, j'ai eu du mal à comprendre sa question au début, parce qu'elle nous parlait d'une tortue bisexuelle.
Oui, c'est quand même étonnant, ça, une tortue. Bah, vous voyez, comme quoi, on a appris plein de trucs dans ce rendez-vous animaux. Laetitia, on accueille Annie et sa tortue.
On accueille Annie.
Et oui, c'est un peu une tortue ninja, la tortue d'Annie. Écoutez, on va lui poser la question. Bonjour Annie.
Oui, bonjour Monsieur Dame, bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour Annie.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tortue bisexuelle, franchement?
Moi, j'en reviens pas.
Vous savez que tous les salariés d'RMC qui sont réveillés, qui sont là du côté de la rédaction, écoutent ce que vous racontez là, parce que franchement, c'est assez impressionnant.
Oui, bon, parce qu'elles sont nées à la maison, elles ont maintenant 20 ans. Hein. Bon, c'est deux sœurs.
Oui.
Voilà, donc il y a un mâle qui est étranger, qui n'est pas leur frère.
Oui.
Et alors, un jour, j'ai enlevé le mâle parce qu'il embêtait trop une des femelles. Il était tout le temps, elle mangeait plus, donc je l'ai enlevé. Et puis, j'ai entendu taper. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Et j'ai séparé le mâle des femelles. Et donc, j'ai regardé et j'ai vu que c'était une des femelles qui tapait l'autre. Bon, j'ai dit, tiens, elles se disputent. Bon, ça arrive des fois. Et après, je l'ai regardé et j'ai vu qu'elle était dessus. Elle était montée. Alors, j'ai dit à ma fille, écoute, il y en a une qui monte, qu'est-ce qu'elle a, elle a changé de sexe. Et bon, c'était comme ça. Et donc, la dernière fois, comme j'étais remis dehors avec le printemps, elle était sous mes yeux, j'ai bien vu ça, et j'ai envoyé la photo. Donc, elle était derrière sa sœur, à taper et à boire monter dessus.
Aïe, aïe, aïe.
C'est-à-dire qu'elle avait un comportement de mâle. Parce que quand il y a les amours des tortues, le mâle, ce qu'il fait, c'est qu'il tape.
Il immobilise.
Tape la carapace de la femelle jusqu'à ce qu'elle soit sonnée, c'est le cas de le dire.
Il lui mord les pattes. Et puis après, crac, crac.
Voilà, il lui mord les pattes. Du coup, la femelle est tétanisée et ne bouge pas. Et le mâle peut faire sa petite affaire. Voilà.
Donc, tout de suite, vous. Pourquoi tout de suite petite affaire? Ça peut être une grande affaire. Ça peut être quelque chose de formidable. Ça peut être un feu d'artifice.
Enfin, petite c'est assez affaire. Brutal quand même chez la tortue. Et je me mets à la place de la tortue femelle. Quand même, voilà,
oui,
qui est sonné, voilà. Bon, alors, vous savez, Annie, regardez en ce moment dans les prés les vaches.
Pourquoi les vaches, Laetitia?
Parce que quand les vaches sont en chaleur, elles montent les autres vaches, même s'il n'y a pas de taureau dans le pré.
D'accord. Mais elles assomment pas leurs copines quand même.
Non, mais on a quand même des chevauchements qui sont d'ordre sexuel dans le sens où c'est stimulé par les hormones sexuelles.
D'accord.
Et quand une tortue, alors j'imagine une tortue comme une vache, est un peu stimulée par les hormones sexuelles du printemps, puisque nous commençons nous en au printemps,
elle est un peu
excitée et du
là.
Coup elle monte sur sa sœur, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit bisexuelle. C'est juste un comportement.
C'est normal.
Alors oui, c'est normal, oui.
Oui, d'accord. Non, mais il faut pas s'inquiéter.
Il y a une excitation qui fait que la tortue monte sur l'autre tortue, même si ce sont deux femelles, si vraiment ce sont deux femelles, mais a priori, oui, puisque vous les connaissez bien.
Bon, ces hormones, Laetitia, c'est quand même
donc il n'y a pas. Alors si ça perturbe la sœur, il faut les séparer, bien entendu.
D'accord.
Mais voilà, ça va pas durer
cette
normalement.
Cette période peut durer combien de temps, Laetitia?
Non, ça va pas durer.
Ça va pas durer.
Oui. Bon. Laetitia. Et je pense que sa sœur, elle va se rebiffer à un moment, qu'elle va lui mordre les pattes en disant, écoute, t'es pas mal, donc...
Merci pour tout
calme-toi.
Merci pour ce petit update concernant la vie sexuelle des tortues, Laetitia, c'était très sympa. Bon, Laetitia, la tortue bisexuelle, ça c'est fait, hein. Voilà, ça restera, on va dire...
Il y a des animaux bisexuels, mais la tortue... Oui, bon...
Voilà, dans la légende de l'émission Animaux, il y aura la tortue bisexuelle quand même.
C'est vrai.
Et pour terminer ce témoignage étonnant, on en a eu pas mal quand même, Laetitia, de témoignages d'animaux touchants qui retrouvaient leur maître.
C'est l'histoire de Nicolas et de son chat Smokey. Son chat Smokey qui est revenu de lui-même après 10 ans.
Ouais. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Alors, c'est une histoire complètement incroyable quand même. Votre chat, alors il s'appelle Smokey, alors c'est un chat noir et blanc, voyez.
Oui.
Il est revenu tout seul après 10 ans d'absence. Dites-nous d'abord, il y a 10 ans, quel âge avait-il quand il a disparu et dans quelles circonstances il a disparu?
Alors en fait, c'est un chat qui avait déjà 2 ans, hein. Nous l'avions eu tout bébé,
oui.
Porté de chez une de mes sœurs. Donc il est né en 2004, hein, 26 mai 2004, et puis nous habitions donc dans un autre appartement, hein, à l'époque.
Oui.
Lorsque nous l'avons eu pendant 2 ans, puis nous avons déménagé.
Oui.
Lors de la naissance de ma fille. Donc le chat a suivi, évidemment.
Oui.
Et puis il a vécu avec nous dans le nouvel appartement pendant 6 mois.
Oui.
Jusqu'à ce fameux jour de juin de 2006. Il avait 2 ans. Quand, et un beau matin, il a disparu. Voilà.
Il est parti et plus aucune nouvelle pendant 10 ans.
C'est aucune ça trace, aucune nouvelle. On a eu beau mettre des affichettes dans le quartier, un petit peu partout. Pas de nouvelles du chat. Donc, bon, ben, moi, j'ai pensé à une issue plutôt tragique à l'époque. Hein.
Imagine.
Et du coup, bon, ben voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là.
Et quelques jours, quelques semaines avant Noël, cadeau inattendu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le 15 octobre dernier, hein. Alors que j'allais amener mon fils au foot un samedi matin,
oui.
Un chat était là à la porte en train de miauler. Alors bon, un chat noir.
À votre porte.
À la porte de l'appartement précisément.
De l'appartement en plus.
C'est ça.
Oui.
C'est ça. Alors bon, sur le coup, bon, j'ai pas trop fait attention. J'ai bien vu qu'il miaulait comme s'il avait très faim, mais bon, on était un peu pressé, donc j'emmène mon fils au foot. On revient 2 heures après. Il était toujours là, toujours à miauler. Et,
devant
là,
votre coup, porte.
Devant la porte et à me regarder. C'est bizarre. Alors ma fille, entre-temps, qu'il avait entendu, lui avait donné à boire. Mmh. Je dis, tiens, c'est bizarre, ce chat-là, je l'ai vu quelque part. Je monte directement les escaliers pour retrouver un vieil album que j'avais. Et effectivement, sur les photos, parce qu'il avait une particularité, ce chat, il l'a toujours d'ailleurs, c'est qu'il a une petite tache noire au niveau des moustaches.
Oui.
Sa tête est blanche, mais il avait une mouche noire bien précise.
Donc il était vraiment reconnaissable.
Tout à fait, au niveau de la face, oui, tout à fait. Et notamment aussi, j'ai retrouvé des photos du dessous de ses pattes avec les coussinets. Alors, c'est des coussinets bicolores, hein, rose et noir, et ça correspondait. Alors, quand j'ai soulevé la patte avant, j'ai vu les coussinets bicolores, j'ai dit, là, il n'y a plus de doute, quoi.
C'est Smokey.
C'est Smokey, alors je l'appelle par son prénom.
Oui.
Il n'a pas spécialement réagi, Smokey, parce que ça faisait quand même 10 ans qu'il était parti, certainement qu'il avait été renommé. Mais par contre, ma femme me dit, lundi, il faut absolument que tu ailles chez le vétérinaire, donc faire vérifier, quoi. Donc, qu'est-ce que je me suis empressé de faire le lundi soir.
Oui, pour vérifier la puce électronique.
Voilà, vérifier si c'était bien notre chat Smokey.
Oui.
Et la vétérinaire, regarde si il avait un tatouage, pas de tatouage. Et puis ensuite, elle regarde s'il était pucé. Et cette fois-ci, le détecteur bip. Elle me dit, ah, vous savez, monsieur, il a une puce. Donc, le propriétaire, la personne qui a mis la puce devient propriétaire légal. C'est que nous, on ne savait plus trop s'il avait été pucé. On savait qu'on l'avait fait opérer, on l'avait fait castrer à l'époque. Mais l'histoire de la puce, ça nous avait échappé un petit peu.
10 ans après, c'est sûr, oui.
C'est ça. Et puis, on n'avait plus le carnet, on n'avait plus rien, en fait. Et du coup, elle me dit, au bout de 10 minutes, après avoir téléphoné, elle me dit, ça y est, on a le nom de la personne, du propriétaire. Et en fait, il s'avère que c'était le nom de ma femme, quoi.
C'est dingue, c'est dingue.
Mais là, il vous a reconnu? Comment il a été? Il a reconnu la maison? Comment il a été avec vous?
Alors, je pense qu'il cherchait une personne précisément, et je pense que c'est ma fille, parce qu'il est tout de suite monté dans sa chambre. Alors, ma fille, à l'époque, elle avait 1 an et demi, hein, quand il
c'est
est parti.
C'est incroyable.
Aujourd'hui, elle en a 11. Tout de suite, il est allé dans sa chambre. Il a pris un de ses vêtements et il s'est mis à faire. Enfin, c'était assez bizarre, quoi. Mais on sentait qu'il était heureux d'avoir retrouvé cette odeur-là. C'était cette odeur précise. Et depuis, il dort toutes les nuits dans la chambre de ma fille, quoi.
Ça doit
merci
être
Nicolas pour ce témoignage.
Vous rendez compte,
c'est incroyable, Laetitia. Merci, hein, Nicolas.
Merci, Nicolas. Vous rendez compte, c'est 10 ans après, il se souvient.
C'est fou.
Pour vous dire la mémoire des chats, il se souvient de l'endroit où il était 10 ans avant, de l'odeur. Il se souvient de l'odeur de l'enfant. Qui avait un an et demi quand
non,
même.
Non, mais c'est fou. C'est incroyable.
C'est incroyable ça, qu'il revienne de lui-même. En plus, dans un appartement, c'est pas une maison. Il se souvient pas d'un jardin. Il se souvient d'un appartement et de l'odeur de l'appartement. C'est incroyable.
C'est fou.
Merci Nicolas,
Pour cette belle histoire qui fait du bien en ce dimanche matin un peu frisqué. C'est vrai que c'est toujours agréable ce genre de petite histoire. Bon, Laetitia, c'est sur cette note positive qu'on va se dire au revoir.
Et oui, hein, c'est...
Parce qu'on se dit au revoir. On sait jamais ce que nous réserve la vie, Laetitia. Hein.
Exactement. Bah, écoutez-moi, une page se tourne. Alors, c'est pas ma décision, vous le savez. C'est comme ça. Je voulais dire qu'il y a 16 ans, Alain Veil, Franck Lanoux, qui était à la tête d'RMC, m'ont donné ma chance.
Je m'en souviens.
Fait confiance, alors que j'étais quand même une novice en radio. Et surtout, ils ont cru dans la thématique animaux. Et ça, je leur en suis infiniment reconnaissante. Ce sont des années de bonheur dominical, certes, mais des rencontres incroyables, passionnantes aussi, avec des passionnés d'animaux, de la cause animale aussi, des rires, des fous rires en votre présence, Françoise. Qu'est-ce qu'on a rigolé pendant 15 ans.
C'est dingue.
Et merci François, merci infiniment pour toutes ces années, merci.
Mais Laetitia, merci à vous, merci franchement.
À toute l'équipe, à Aurélie, Paul, Amina et tous ceux qui ont participé à cette émission, merci surtout à vous tous qui nous écoutez. Merci pour tout ce que vous faites pour les animaux. Et avant de pleurer vraiment, de mon côté, je vous donne rendez-vous.
Alors Laetitia, vous savez quoi, prenez, parce que là, ça fait le 48e Kinex que Laetitia utilise depuis ce matin.
C'est sûr.
On vous retrouve sur France 5 tous les mercredis pour la quotidienne.
Pour la quotidienne à partir de mercredi 6 septembre, c'est la nouvelle saison de la quotidienne.
Et sur TF1 très bientôt.
Très bientôt dans une émission, un nouveau programme qui s'appelle La vie secrète des chats, ça sera le dimanche. Je ne vous en dis pas plus, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, vous me retrouverez avec
c'est
des
chouette,
chats.
Ça. Bon,
et
bah,
bien
c'est très
sûr,
bien.
Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook quand même. Laetitia Barlerin Miss Veto, et en passant, vous cliquez sur
j'aime.
Et je vous aime, à très bientôt, merci.
Et sur votre compte Twitter aussi, on peut vous suivre comme
et
ça.
Et sur mon compte Twitter aussi.
Bon, Laetitia, merci. En ces 15 ans, ben voilà, moi aussi j'ai appris plein de choses sur les animaux. Je suis très ému parce que on est devenus amis hein, depuis toutes ces années. Ça crée, vous savez, 15 ans de radio, ça crée une complicité qui est indéfectible. Et je vous souhaite le meilleur, Laetitia. Voilà,
merci,
sincèrement.
Merci à vous et bonne continuation aussi. Merci à vous tous.
Et dans un instant, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour 2 heures dédiées à l'automobile. Restez là sur RMC et merci encore. À tout de suite.
Retrouvez le Week-end des Experts en podcast sur rmc.fr.